Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Bien, c'est le rendez-vous avec la police nationale congolaise. Aujourd'hui, nous recevons les commissaires supérieurs principaux Ndonda Kindi, Jean Bosco, chargé des ressources humaines au niveau de la police nationale. Et avec lui, nous allons aujourd'hui conclure cette grande partie. On a parlé de la réforme de la police au niveau des ressources humaines. On va conclure aujourd'hui avec notre invité, commissaire supérieur Ndonda. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on a abordé plusieurs thèmes par rapport à la réforme de la police dans les domaines des ressources humaines. Alors, pouvez-vous rappeler jusque-là ce dont on a parlé?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que aujourd'hui, nous allons mettre un terme à la série d'émissions que vous avez ouvertes depuis bientôt 3 ou 4 semaines. Mm-hmm. Et aujourd'hui, nous allons justement faire la synthèse de tout ce que nous avons développé jusque-là dans le cadre du statut du personnel des carrières de la police nationale congolaise. Et ce statut, comme nous l'avons dit, compte 6 titres, disons 7, parce qu'il y a le tout dernier titre qui n'est pas de disposition finale. Et par rapport à ces 6 titres, nous avons parlé au départ de disposition générale, et c'est là où nous avons évoqué les innovations apportées par la réforme par rapport à ce statut. Mm-hmm. Et au titre 2, nous avons parlé du recrutement, avec tout ce que cela implique, notamment les conditions de recrutement, les formations dans l'ensemble, qui suivent, parce que après avoir été recruté, il faut être formé, nous l'avons dit. Nous avons abordé ensuite le troisième titre qui concernait les droits, devoirs et obligations du policier. Avant que nous ayons abordé la grande partie qui a concerné la carrière, aujourd'hui, nous allons reprendre de façon succincte les contenus de chacun de ces titres-là. Mmh. Et nous avons parlé également du régime disciplinaire, après quoi on a entamé ce que nous avons appelé la fin carrière. Et ce sont ces différents titres que nous allons rappeler aujourd'hui, en grande ligne, parce que je pense pas que le temps pourra nous permettre d'aller encore dans le détail.
Oui.
Nous l'avons déjà fait. Et alors, grand titre, nous allons justement les prendre,
ramasser. Alors, commençons avec les innovations, c'est ça le point numéro un. Quelles sont les innovations qui ont été apportées dans les statuts du personnel de la police nationale congolaise?
À son temps, nous avons quand même signalé que avant ce statut, il n'y avait rien. Ça, c'est la grande innovation. En fait, le statut lui-même est une grande innovation de la réforme de la police nationale congolaise. Et avec ce statut, il y a des structures qui sont nées, notamment l'inspection générale d'audit, et ainsi que tout l'ensemble des textes réglementaires qui sont en train d'être élaborés dans le cadre de l'application du statut. Nous avons également épinglé quelques aspects en rapport avec le statut pour savoir à quoi ou à qui ce statut s'applique. Et nous avons dit que ce statut s'appliquait uniquement au personnel de carrière de la police nationale, c'est-à-dire les policiers de carrière, pas pour les personnels administratifs. Et nous avons signalé dedans que les policiers bénéficient d'un certain nombre de protections. Il est protégé sur le plan de la loi, il est protégé sur le plan administratif. Et tout ça s'est contenu justement dans les innovations que avait apporté la réforme dans le cadre du statut. Mmh. Et par rapport à la suite, c'est-à-dire au domaine du recrutement, souvenez-vous, nous avons dit que pour être recruté au niveau de la police nationale congolaise, il faut remplir un certain nombre de critères, et nous avons eu l'occasion de les citer. Et les plus immédiats, c'est notamment le fait qu'il faut d'abord être un Congolais de nationalité et avoir un âge compris entre 18 et 35 ans. Mmh. Et bien entendu, avoir un niveau d'études plus ou moins de 6 à la rigueur. Et d'autres critères, je crois que vous avez eu l'occasion de les suivre. Voilà, c'est à peu près, les éléments que nous avons évoqués en rapport avec les innovations. Et par rapport à la carrière, comme vous le savez, nous avons abordé la notion des affectations, Nous avons abordé les droits et devoirs. Nous avons évoqué les avantages à différents niveaux. Nous avons évoqué la rémunération.
Oui.
Et voilà tout un tas de choses que le texte prévoit et qui doivent être mis en application. Nous avons eu l'autre occasion de constater que bon nombre de ces dispositions statutaires restent encore non appliquées. Hein. Et comme je l'avais dit, le statut, à peine il existe il y a 3 ans, et que toutes les dispositions qui sont contenues dans ce statut sont en train d'être appliquées au fur et à mesure, selon les disponibilités et selon justement la vitesse qu'imprime l'administration par rapport aux textes qui doivent être pris de manière à permettre ces dispositions à être mises en œuvre.
Alors parlez-nous des bénéfices apportés par la loi 13/013 du 1er juin portant statut du policier.
Voilà, merci. Nous avons dit que la loi portant statut du policier contient des prescriptions qui fixent la situation du policier de carrière en ce qui concerne l'entrée au service, le déroulement, c'est-à-dire la carrière, et enfin la sortie. OK? Et que ce statut ne s'applique qu'au corps de policiers de carrière, hormis les personnes administratives. Il est également entendu que le policier bénéficie d'une protection dans l'exercice de ses fonctions et d'une indemnité de sujétion. Nous avons eu l'occasion d'expliquer ce que c'est l'indemnité de sujétion. C'est tout simplement une allocation accordée mensuellement au policier, qui doit être accordée parce qu'elle ne l'est pas encore, être accordée au policier du fait de sa disponibilité permanente au service. Vous savez que la police travaille 24/24. OK? Ça, c'est la police. Les policiers travaillent et ils se reposent. Mais la police travaille 24/24. Donc voilà. Et toujours dans le cadre de ces bénéfices, nous avons signalé que dans le cadre de ses fonctions, en cas de violation des droits du policier par la hiérarchie, celui-ci a les droits de recourir à certaines formes de réclamation par voie administrative ou par voie juridictionnelle. Voilà. Nous avons dit également que ce statut soustrait les policiers du règlement de discipline militaire. Donc, au fait, le fait de disposer déjà de son statut particulier, les policiers n'est plus soumis au règlement de discipline militaire. Ça, c'est dit. Malheureusement, je dis bien, l'article 156 alinéa 1 de la Constitution met encore les policiers en position de soumission vis-à-vis au règlement militaire.
Des cours et des tribunaux militaires.
Voilà, tout à fait.
Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre cela en application?
Mais vous savez, justement, c'est quoi? C'est la Constitution, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut modifier l'article d'une Constitution. Donc, de toute façon, la volonté a été exprimée pour que cet article puisse être révisé. Je crois que le moment venu, le législateur pourra trouver le bien fondé de modifier cet article qui met encore
Dans le statut du policier, voilà. Ça a été déjà modifié.
De toute façon, du côté du statut de la police, c'est clair. Le policier ne répond plus devant le règlement de discipline militaire. Ça, c'est clair.
Mais
la Constitution, qui est la loi fondamentale, elle est au-dessus de toutes les autres lois. C'est pourquoi nous attendons justement la modification de cet article pour être en phase avec l'esprit du statut.
D'accord, on va accueillir Malonga qui nous appelle de Mandeville. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Malonga?
Oui, la question est que...
La communication n'est pas très bonne. Veuillez peut-être vous déplacer un peu. Ça peut s'améliorer, Malonga.
Ok, ça va.
Oui, ça va un peu bien. D'accord, allez-y.
Ok, ça va. Bon, je viens de ce que... En tout cas, il nous rappelle le sujet très clair, c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Nous sommes à la révision. Mais, il a dit que toutes les disciplines concernent la personne de la carrière et la police. Mais dommage, bon, les structures de la police qui ont suivi et qui ont vraiment suivi cette discipline, c'était à qui? Et il a conscience de ça, nous les subissons vraiment le bien et le bénéfice l'effet de discipline. Qu'est-ce qui fait cesser les policiers qui font les réflexes de pas vraiment l'inclusion que nous sommes censés les connaître?
Oui, la communication, en tout cas, nous trahit aujourd'hui et n'est pas très bonne. On n'arrive pas à saisir correctement ce que vous dites, Malon. Peut-être trouver un autre téléphone et rappelez-nous et vous allez...
Absolument.
Oui, participer parce qu'on... Oui, oui, on a rien saisi. Merci. Nous poursuivons avec notre invité. Parlons maintenant de l'influence de cette loi portant statut du policier de carrière sur l'institution police et le policier.
Voilà, merci, merci, monsieur Journal. Je crois que notre co-auditeur voudra bien nous excuser parce que le message n'est pas passé, il pourra revenir. Donc, nous pouvons signaler ici que, en termes d'influence, il faut dire que le statut que nous avons aujourd'hui est une seule et unique référence en matière de gestion des ressources humaines. Parce que c'est là où les règles et les principes sont clairement définis, au bénéfice aussi bien de l'institution police que du policier. Et en d'autres termes, il est dans la modernisation des acquis de la gestion des ressources humaines, notamment la constitution d'une base de données que nous avons déjà et la maîtrise effective de la police nationale congolaise, bien entendu, une gestion orthodoxe de ses ressources. Ça, c'est l'influence ou, disons, l'impact du statut sur le statut du statut sur la gestion des ressources humaines au sein de la police nationale congolaise. Parce que c'est notre Bible, je veux dire. Ça, c'est ça la Bible de la gestion du personnel.
Oui.
C'est le document de référence en tout moment et en tout lieu. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les policiers aujourd'hui sont-ils formés?
Et vous savez, nous avons eu l'occasion de le dire. Et pour savoir que les policiers sont formés, je crois qu'il faut les vivre. Il faut les vivre au quotidien. Dans la manière de fonctionner, dans la manière de travailler, dans la manière d'intervenir. Je vais vous assurer que, à l'heure qu'il est, nous avons un personnel bien formé, bien que pas complètement. C'est-à-dire, au moins, nous sommes à la hauteur de 80% des policiers qui sont bien formés. Raison pour laquelle, justement, qu'elle tient bon par rapport à la sécurisation des biens et des personnes, et bien entendu au maintien de l'ordre public.
Mais quels sont les types de formations que les policiers bénéficient, dont les policiers
voilà justement, il y a trois types de formations que nous avons relevées. C'est notamment la formation de base qui concerne les nouveaux venus, c'est-à-dire ceux qui viennent de la vie civile. C'est la formation de base. Et après, il y a la formation spécialisée. Et par rapport à la formation spécialisée, il y a différents domaines que nous pouvons évoquer, notamment la police des frontières, la police des mines, la police fluviale, la situation routière, les antiterreurs, ainsi de suite. La police scientifique, et bien entendu, la cybercriminalité d'ailleurs, à laquelle je voudrais bien revenir par un communiqué.
Est-ce qu'au niveau de notre police, on a déjà une unité chargée de la cybercriminalité?
Nous avons toute une direction
qui s'occupe de la cybercriminalité,
nouvelles technologies. Disons, comment la direction, la télécommunication et des nouvelles technologies. C'est toute une direction qui contient en son sein, justement, toute une matière en rapport avec la cybercriminalité. Et là, j'étais en train de dire que les cybercriminels sont très actifs. D'ailleurs, raison pour laquelle le commissaire général a pris des dispositions pour que ceux qui s'amusent justement à vouloir se servir de ces noms-là, les noms de Charles Bissignimana, pour justement fomenter des choses. Et par rapport à ça, il y a un communiqué d'ailleurs que je voulais bien lire avec votre autorisation.
Oui.
Il est signé par le commissaire général de la police nationale congolaise, Bissignimana Rukira Charles, le commissaire visionnaire. Voici son contenu. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire visionnaire Charles Bissignimana Rukira, informe l'opinion tant national qu'international, que divers comptes Facebook sont ouverts en son nom. Et n'importe qui y est publié, et n'importe quoi y est publié afin de tromper des personnes de bonne foi. Ces comptes sont l'œuvre des gens mal intentionnés, ouverts dans le simple but de tromper l'opinion, étant donné que le commissaire général n'a jamais possédé et ne possède aucun compte Facebook. Les enquêtes ont été entreprises afin non seulement de fermer les 10 comptes, mais également de poursuivre en justice tous ces cybercriminels auxquels je venais de faire allusion tout à l'heure. Mmh. Signé le commissaire général de la police nationale congolaise, Bisengimana Rukira Charles, commissaire des mineurs. Je tenais absolument à passer ce communiqué parce que tout le monde est victime de ces phénomènes de la cybercriminalité.
Oui, bien sûr.
Les gens généralement, les autorités en souffrent.
Oui.
Les autorités sont les plus visées parce que, comprenez, quand on veut accuser son chien de rage, disons on veut tuer son chien, on l'accuse de rage.
On l'accuse de rage.
Voilà, c'est ça.
Alors, on va poursuivre avec vous tout à l'heure le temps d'accueillir des auditeurs. Jean-Pi de Baraka Ngalula, Ntamba Tamba de Lubumbashi. Jean-Pi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai avec moi une seule question, une petite démonstration par rapport à la vie que les policiers sont en train de mener chez nous à Baraka. Je pense que la fois passée, j'avais encore participé à cette émission pour ceux qui assurent, même pour ceux qui concernent les policiers. J'aimerais un peu savoir, parce qu'il y a les jeunes policiers recrutés ici chez nous à Baraka, ils ont fait la formation au niveau de la MONUSCO ici. Les chiffres là, ils ne sont pas mécanisés, donc ils ne sont pas pris en charge. Comme si nous sommes dans une période des activités champêtres, nous voyons que ce sont des jeunes recrutés qui se lancent encore aux activités champêtres pour qu'ils puissent gagner quelque chose. À tout cela, j'aimerais savoir, je voulais demander à l'invité, les policiers sont mécanisés après combien de temps? Ou après? Je pense qu'ils ont déjà fait une formation de 3 ou 6 mois comme ça, si je ne m'abuse pas, mais jusque-là, ils ne sont pas pris en charge. Jusqu'à quand ils seront pris en charge? C'est ça la seule question, j'ai dit Daniel Kachama.
Merci Jean-Pi. Ngalula Ntamba Tamba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question Ngalula?
Oui, j'ai une question, mais à cette question, je vais d'abord dire ceci. La police a aujourd'hui vraiment un très mauvais comportement, messieurs les journalistes, dans une mission d'arrestation d'un individu. Vous allez trouver, lorsque la police arrive sur les lieux, la toute première chose, c'est d'abattre la personne en question. Parfois, la personne arrive même à être dans les stations nues, sans avis. L'argent que l'individu a dans la poche, la police arrive à récupérer ça. Si l'individu a le téléphone à n'importe quoi dans la poche, la police va récupérer. Donc, le gouvernement congolais aujourd'hui est en train de nous recruter n'importe quelle personne, soi-disant qu'elle est la police. Vous trouverez là quelqu'un qui n'a pas passé même, qui n'a pas passé sur les bancs de l'école, qui n'a pas un niveau d'études, qui ne sait pas écrire son nom. Mais vous trouverez cette personne-là arrive à être dans la police. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour nous recruter quand même des bons
policiers
qui peuvent quand même défendre leurs droits, que ce soit dans les travaux qu'ils sont en train de faire, que ce soit devant les individus qui sont en train d'arrêter? Parce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais les choses sont vraiment impossibles. Les policiers qui vous prennent de l'alcool, les policiers qui vous suivent. Donc, devant un individu, il voit comme s'il est devant un animal. Il peut faire n'importe quoi devant cette personne. C'est ça un peu ma préoccupation.
D'accord, merci. Commissaire principal d'honneur.
Ok, merci beaucoup. Je crois que ce sont des questions que nous avons abordées l'autre fois. Néanmoins, nous pouvons tout de même revenir sur les éléments de réponse que nous avons eu l'occasion de donner.
Les jeunes policiers non mécanisés à Baraka.
Voilà. Non, je crois qu'il faudrait que je précise d'abord certaines choses. Hein. Le recrutement au sein de la police nationale est du ressort du gouvernement central. Jamais dans un coin de la République on peut se mettre à recruter. Par la MONUSCO soit-elle.
La MONUSCO n'a pas recruté, la MONUSCO a formé.
Je veux savoir, ces policiers ont été recrutés où et par qui?
Par le gouvernement,
bien entendu.
Parce que
pour recruter, je vous dis, c'est sur ordre du gouvernement qu'on procède au recrutement, parce qu'à ce moment-là, les recrues sont prises en compte par rapport à leur rémunération. Si on regroupe des jeunes gens dans un coin de la République, on les soumet à une formation, je ne sais pas s'il y a une mise à niveau, parce que je sais que ce sont des gens qui n'ont pas suivi une formation de base. Ils m'auraient dit qu'ils ont été formés à Jules Moquet, je comprendrais.
Mais s'ils vous ont été formés quelque part. Les policiers ont été recrutés par le gouvernement et formés par les
Moi, je vous apprends qu'ils n'ont pas été formés. Non, les policiers qui sont recrutés par le gouvernement ne sont pas soumis à la formation auprès de la MONUSCO. Non. Nos policiers, lorsqu'ils sont recrutés, ils vont dans nos écoles de la police pour être formés. Le stage, le recyclage, oui, au niveau de la MONUSCO, des partenaires. OK? Alors, je voulais simplement dire que si c'était un recrutement régulier, ces policiers seraient reconnus par le gouvernement congolais et ils seraient alignés parmi les policiers à payer ou déjà payés. Je ne sais pas quelle période ils ont été recrutés. Quoi qu'il en soit, j'ai dit, s'ils ont été recrutés par les commandants locaux, eh bien, l'information échappe aux décideurs. Parce que pour mécaniser un policier, ce n'est pas l'affaire d'un commissaire provincial, ce n'est pas l'affaire d'un gouverneur, c'est plutôt l'affaire du gouvernement central. Et le gouvernement central, pour pouvoir prendre en charge la rémunération d'un corps, il faut qu'il ait été informé. Sinon, c'est lui qui devait être l'initiateur justement de cet ordre-là pour qu'on puisse recruter et former. À ce moment-là, lorsque vous prenez, vous déposez le dossier pour réclamer la rémunération, il se reconnaît et il agit. Donc, pour répondre, peut-être, je sais que c'est une question qui est liée à l'impaiement de certains policiers. Mmh. C'est vrai. Nous avons tout un dossier de policiers qui ne sont pas encore payés. Et je l'avais dit la fois passée que c'est un dossier qui est en train de suivre son cours normal. Et ils vont être payés, ceux-là, qui ont été enregistrés, qui sont reconnus en tant que tels. Mais pas des gens qu'on a retrouvés dans un coin et, je ne sais pas, recrutés de quelconque façon. Et aujourd'hui, on pose le problème de pouvoir les payer. Non. Je crois que si c'est un recrutement organisé par le pouvoir central, oui, la paix ne devrait pas poser problème. Même si elle traînait à être faite, au moins elle ne poserait pas le problème de légitimité.
D'accord. L'ingénieur Christian nous appelle de Calémie. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Je vais aller tout droit au but pour demander à l'invité pourquoi la remise à niveau n'est pas faite au niveau de la police judiciaire et surtout au niveau des OPJ. La deuxième préoccupation, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un compte bancaire où le condamné a payé une somme d'argent, doit aller payer à la banque pour le compte du trésor public ou dans le compte de l'État, qui de payer des amendes transactionnelles à la main comme ça? Vous ne voyez pas que c'est un manque d'autorité, un manque d'application de la loi, et je ne sais pas moi. Et la troisième préoccupation, pourquoi la police arrive toujours à arrêter brutalement ou n'arrive pas à procéder des arrestations par rapport à la loi où il faut convoquer une personne avant de l'amener comme ça au bureau. Voilà un peu ce qui était ma préoccupation pour l'émission.
Merci Christian.
Oui, c'est très bien. Je crois que j'allais poursuivre avec la deuxième question du
Monsieur Ngalula de Lubumbashi, voilà, qui dit que la police a un mauvais comportement
des policiers.
On tabasse, est-ce que la police vient vous arrêter, ils tabassent, ils prennent les téléphones, l'argent.
Non. Je crois qu'il faut, nous avons toujours dénoncé les mauvaises manières de faire lorsque nous sommes informés, lorsque nous nous saisissons des cas pareils. Les policiers qui se comportent contrairement aux consignes qu'ils reçoivent de la hiérarchie, ils sont sanctionnés. Ça, ce sont des comportements que nous condamnons tous. S'il y a des policiers qui se livrent à de telles pratiques, je vous dis que ceux-là, ils doivent être sanctionnés lorsqu'on met la main dessus. Donc, on ne peut pas, à l'heure qu'il est, où nous sommes en train de prôner les droits de l'homme, la brutalité n'est policière. Plus permise. Non, elle n'est plus permise. Un citoyen qui est convoqué reçoit la convocation. Il va répondre bonnement à la convocation et savoir sur place de quoi on lui reproche ou pourquoi on l'a convoqué. La suite, je crois que si l'OPJ fait son dossier, il sait comment le clôturer. Sinon, il peut le transférer à une autre juridiction. Voilà, c'est des manières que nous disons. La réforme veut justement que les policiers, la population puissent vivre en symbiose. Je crois que s'il a fait un constat amer comme celui-ci, je le déplore moi également. Et donc, c'est pas à mettre sur le dos de tous les policiers.
Et certains policiers ne sont pas passés par les bancs de l'école. Pourquoi ne pas recruter de bons éléments? C'est ce qu'Ngalula a dit encore.
Non, le recrutement, je l'ai bien dit, ceux qui ont précédé la loi qui nous régit aujourd'hui
ont été recrutés de la manière dont nous
connaissons. Voilà, tout à fait.
Oui.
Et l'œuvre de certains responsables au niveau des unités, qui ne savaient pas que la police, c'est un corps d'élite, et qu'on ne peut pas, et on ne peut pas y verser n'importe qui. Mais aujourd'hui, devant le texte que nous avons, il n'y aura plus de recrutement
de ces gens
sans référence. Voilà. La troisième question, c'est celle qui vient de...
L'ingénieur Christian qui parle de la remise à niveau des OPJ.
Oui, la police judiciaire, vous avez dit, je crois que c'est vraiment pas une question de remise à niveau.
Est-ce que vous organisez
nous venons
souvent,
de,
il veut savoir si vous organisez
des remises
à niveau.
Nous sommes à la cinquième promotion, je crois, de la formation des OPJ, ici, à l'école de la formation des OPJ, ici à Kinshasa. Et à toutes ces formations ou à toutes ces sessions, on prit part bon nombre de fonctionnaires de l'État provenant d'autres services qui font également usage des OPJ. OK? Et dans chaque bureau des OPJ, à ma connaissance, à moins que je me trompe, il y a un agent de la DGRAD. Quel est son rôle? C'est lui, au fait, qui... Comment je ne sais pas, qui fait la note de perception.
Oui.
Il fait la note de perception.
La note.
Il ne perçoit pas les frais.
Oui.
Il fait la note de perception des amendes
transactionnelles.
Il remet à la personne impliquée qui va payer à la banque pour les comptes du Trésor public.
Mais il nous dit que c'est pas comme ça.
Ah oui. Ça, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas admettre. Il n'est pas autorisé. Vous savez que la police nationale a des assignations. Le gouvernement attend de la police des recettes. Parce que c'est un service générateur de recettes aussi. Et entre autres sources de recettes, c'est les amendes transactionnelles.
Oui.
C'est raison pour laquelle les agents de la DGRAD sont plantés dans tous les bureaux OPJ pour justement faire la note de perception, remettre aux personnes qui sont amendées de manière à les verser à la banque. Pour les comptes du Trésor public. Donc si dans certaines pratiques, les gens se permettent de prendre l'argent et de mettre dans la poche, non, ça c'est un détournement. Un détournement de deniers publics, comme on peut l'appeler. Vous comprenez?
Mais ces gens doivent être sanctionnés.
Naturellement. Il faut les dénoncer, tout simplement. Il faut les dénoncer.
Bien. Voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous donne quand même quelques minutes pour rappeler rapidement, avant de chuter, rappeler rapidement les autres sujets abordés avec vous par rapport à la réforme de la police.
Voilà. Donc, nous étions là par rapport au...
C'est tout par rapport au statut du policier. Oui.
Puis, nous avons dit qu'aujourd'hui, la police nationale congolaise dispose d'une base de données. Base de données qui reprend la quantité ou disons les effectifs de la PNC en termes de quantité et de qualité. Et ça, nous l'avons obtenu à l'issue de la collecte des données qui a eu lieu à deux reprises d'ailleurs, entre 2010-2011 et puis en 2015, 2013 et 2015. Donc aujourd'hui, nous disposons d'une base de données. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être à l'aise lorsque
vous
nous
maîtrisez
parlons.
Les effectifs aujourd'hui.
Je vous dis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire que aujourd'hui, la maîtrise des effectifs n'est plus un problème pour la PNC. Ce n'est plus un problème. Aujourd'hui, il suffit seulement que la haute hiérarchie nous dise, voilà, nous avons besoin de savoir combien de dames vous avez au sein de la PNC. Nous avons le chiffre sous la lèvre.
Hein? Combien de dames avez-vous?
Est-ce donc, voilà, c'est ça. Ouais. Ce sont des chiffres qu'on ne communique pas comme ça. Hein? Vous voyez, hein? Mais au moins, nous sommes à l'aise pour dire que on a facilité la tâche à la PNC après la récolte des données qui a eu lieu, comme je venais de le dire, à l'occasion de la collecte. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Et nous avons une occasion également de dire que...
De parler de la politique de recrutement au sein de la police.
C'est une réponse à la question qui vient d'être posée.
Oui.
Je précise que le recrutement, c'est... Je dirais même que c'est à l'initiative du gouvernement congolais que la police peut recruter. Donc, c'est une matière tout à fait réservée aux décideurs. Hein, parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui fixe les effectifs de la police et c'est lui qui sait à un moment donné que, selon les prévisions que nous préparons, qu'il est temps de recruter ou qu'il n'est pas encore temps de recruter.
Voilà, on a dit également que le policier bénéficie de la protection dans l'exercice de ses fonctions.
Oui, oui, nous avons dit que le policier bénéficie de la protection dans l'exercice de ses fonctions parce que c'est un être humain, vous savez, il a droit à la protection, à son intégrité physique, hein, vous comprenez. Il a droit à la protection sociale, hein. il a droit, comme vous le savez.
Il y a des policiers qui ont déjà atteint l'âge de la retraite. Et qui
ne vous en faites pas, l'âge de la retraite,
c'est une chose.
Nous avons déjà finalisé les documents pour pouvoir permettre à la haute hiérarchie de penser à mettre nos frères, nos amis, nos collègues, nos concitoyens qui ont atteint l'âge de la retraite d'aller se reposer et d'aller vaquer librement à leurs occupations privées. Parce qu'ils auront servi l'État pendant autant d'années. Mmh. Et donc, c'est de leur droit.
Et quel est l'âge de la retraite à la police nationale?
Oui, on a fixé, le texte prévoit la mise à la retraite pour les agents. C'est-à-dire que dans l'ensemble des catégories, la catégorie C, la catégorie D, la catégorie E. Mmh. C'est la catégorie qui réunit tous les agents, c'est-à-dire en commençant par les sous-officiers jusqu'à l'agent de police. Là-bas, c'est 55 ans d'âge qu'il faut avoir comme âge de la retraite.
De la retraite, hein.
Oui, oui. Et par rapport aux policiers de la catégorie B, là, ce sont des subalternes, hein. Il faut atteindre 60 ans. Lorsqu'il a atteint 60 ans, je crois que c'est l'âge qui est fixé par le statut. Mmh. Et enfin, bien entendu, la catégorie AA et A1, c'est-à-dire la catégorie qui regroupe les généraux, ainsi que les officiers supérieurs. Et là, c'est 65 ans.
65 ans,
déjà, on va laisser reposer.
Merci, monsieur le commissaire supérieur principal, Ndonda Kindi Jean Bosco, chargé des ressources humaines au niveau de la police nationale congolaise. À la prochaine.
Merci beaucoup.